Vous écoutez l'émission Quoi Neuf sur Radio Campus comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Une émission spéciale, comme la semaine dernière d'ailleurs, consacrée à la Fête de la Science édition 2022. Voilà, on poursuit donc la découverte de la science pour le coup, hein, avec un doctorant qui est présent dans notre studio. Donc, merci à Thomas Panager d'être venu ici, donc présenter votre travail.
Tout à fait, bonjour.
Donc, vous êtes chercheur, doctorant. On va peut-être préciser un petit peu, puisqu'on en a un vrai ici en studio, comment ça fonctionne d'un point de vue de son organisation, un doctorant. Et on sait qu'en ce moment, on parle beaucoup des difficultés des doctorants à survivre, à vivre dans ce monde complexe professionnel. Mais bon, on verra après s'il y a des améliorations perspective. En tout cas, il y a un vrai travail qui est mené dans des laboratoires et chaque doctorant est épaulé, on peut dire comme ça, par un maître de...
Tout à fait. Chaque doctorant ou doctorante est encadré par un directeur ou une directrice de thèse qui permet de cadrer un peu les travaux tout au long de la thèse.
Donc c'est important d'avoir un support, un référent.
C'est évidemment quelque chose de nécessaire puisque c'est une personne qui va permettre de cadrer un peu tout le travail. Permettre de ne pas s'éparpiller, réussir toujours à boucler dans les temps les travaux qu'on commence à mener.
Donc quand on choisit un sujet de thèse, on demande conseil aussi à cette personne?
Alors, ça peut être le choix du sujet de thèse peut être très différent en fonction des domaines dans lesquels on travaille. Je sais qu'il y a des domaines, notamment en sciences humaines, où c'est assez fréquent que les doctorants ou doctorantes proposent un sujet de recherche qu'ils vont soumettre à un ou une directrice de thèse pour effectuer ses travaux. Dans mon cas, c'est un sujet qui m'a été proposé par une personne qui travaille dans un laboratoire. Et donc, j'ai accepté de mener ces recherches avec cette personne lors de ma thèse.
Voilà, donc on peut peut-être maintenant parler du contenu de cette thèse qui est en voie d'achèvement, là.
Tout à fait. Hein. D'ici quelques semaines, elle ne sera plus.
Et elle sera... donné au public
Alors, la soutenance est publique, oui. Ce sera le 12 décembre, voilà.
Voilà, donc soutien de thèse, c'est un moment forcément important.
Tout à fait, c'est l'achèvement de 3 années de travail quand même ardu. Donc on est heureux qu'on finisse par en voir le bout. Mm-hmm. Puis c'est aussi quand même... c'est un bel objet, une thèse. Mm-hmm. C'est vraiment la résultante d'une réflexion, d'une investigation... sur plusieurs années, donc c'est toujours agréable d'avoir ce document à la fin qui est terminé et abouti.
Voilà, donc je ne vais pas vous prendre trop de votre temps, je sais que vous bouclez un petit peu votre partition écrite.
Tout à fait.
Et donc on va entrer tout de suite dans le contenu de votre recherche, présenté.
Oui, donc alors moi je travaille en combustion, et donc plus particulièrement on s'intéresse à la chimie qu'il y a derrière les flammes. Dans mon laboratoire, on va s'intéresser, quand on brûle un carburant, on va s'intéresser à quel polluant il va former, en quelle quantité, et est-ce que si je fais varier les conditions dans lesquelles mon carburant brûle, comment est-ce que cela va jouer sur les polluants qui sont formés. Et donc moi, plus précisément, je travaille sur quelque chose qu'on appelle les flammes froides. Donc les flammes froides, ce sont des flammes qui brûlent à plus basse température que des flammes chaudes. Donc on est en général entre 500 et 600 degrés Celsius pour des flammes froides, pour des températures de flammes chaudes qui sont plutôt de l'ordre de 1000-1200 degrés Celsius. Et donc ces flammes froides, elles nous intéressent depuis longtemps parce qu'on sait qu'elles sont la cause des phénomènes de calage dans les moteurs thermiques. Ça fait maintenant 100 ans qu'on le sait. Et c'est vraiment les processus chimiques qu'il y a derrière qui créent ce phénomène. Et ces processus chimiques sont encore aujourd'hui mal connus, et donc on cherche toujours à essayer de mieux comprendre la chimie qu'il y a derrière ces flammes.
Alors, je ne sais pas si ça a à voir, mais une voiture diesel, par exemple, quand on arrête le moteur, parfois ça continue encore un peu, ça a quelque chose à voir, non?
Alors, je ne suis pas du tout expert, moi je travaille vraiment dans le fondamental, je ne travaille pas sur les moteurs. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question.
D'accord. Donc, en fait, on a bien compris qu'il y a une différence de niveau en température. On parlait tout à l'heure de produits de combustion. Peut-être on peut définir dans les flammes chaudes, qu'est-ce qu'on retrouve comme produit?
Tout à fait. Alors, le produit majoritaire et celui qui fait tant parler, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, qui est émis lorsqu'on brûle un carburant dans lequel il y a des atomes de carbone. C'est un composé qui est majoritairement formé dans les flammes. Et le CO2, on sait, c'est un gaz à effet de serre. Il vient s'accumuler dans l'atmosphère et il a pour effet de la réchauffer. À côté de ça, il y a d'autres polluants qui sont émis dans les flammes. On pense notamment aux particules de suie, donc qui sont des particules de carbone qui peuvent être dangereuses pour la santé des humains. Ou alors des oxydes d'azote, qui sont des composés qui, une fois rejetés dans l'atmosphère, vont réagir, former de l'ozone, qui est aussi un composé qui est nocif pour l'humain et pour l'environnement. Et donc nous, on va chercher à comprendre comment... Par quel processus chimique ces molécules, ces polluants se forment pour éventuellement essayer de trouver des solutions à comment est-ce qu'on pourrait les réduire lors de la combustion.
Donc quand on parle de combustion, il faut un carburant, un comburant.
Tout à fait.
Tous les comburants que je connais, a priori, ils ont des chaînes carbonées.
La majorité, oui. Alors c'est ce qu'on appelle en général les carburants fossiles, puisqu'en fait, ce sont des carburants qui sont issus de matière qui s'est fossilisée au cours de longues années et qui a ensuite extrait du sol. Juste pour revenir sur la combustion, peut-être que certains se rappellent du triangle du feu. Pour faire une flamme, il nous faut trois choses. Il nous faut un carburant, un comburant. Donc en général, le comburant, c'est l'oxygène qui est contenu dans l'air. Il faut de l'énergie. Il faut pouvoir allumer la flamme. Alors un briquet, ça va être la pierre du briquet. Dans un moteur essence, ça va être la bougie, par exemple. Donc ça, sont vraiment les trois composantes qui sont importantes pour initier une combustion.
Et pour un moteur diesel, c'est pas tout à fait pareil.
Alors pour les moteurs diesel, c'est différent. On va laisser, alors au lieu d'avoir une bougie, une électrode qui va en fait venir allumer le mélange, on va injecter dans une enceinte où de l'air est comprimé, on va injecter du carburant qu'on va vaporiser dans l'enceinte et qui va s'auto-inflammer. Et l'auto-inflammation de ce carburant, elle est dictée par des processus chimiques qui sont en fait ce qu'on appelle des processus de basse température. Et donc c'est ce que moi j'étudie, essayer de comprendre exactement quelles réactions ont lieu à ce moment-là. Parce que si on arrivait à mieux comprendre cette chimie, on sait qu'on peut développer des processus de combustion qui vont émettre moins de polluants, et notamment moins de suie et moins d'oxyde d'azote.
Donc à ce moment-là, on pourrait peut-être imaginer que la combustion du genre gasoil pourrait être plus propre que l'essence?
Alors, c'est difficile de dire propre, puisqu'en fait, les polluants qui sont formés dans différents types de moteurs ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'ils vont forcément dépendre des conditions dans lesquelles l'inflammation et la flamme se développent. Mais ce qui est sûr, c'est que les moteurs essence et les moteurs diesel possèdent chacun des avantages et des désavantages. Mais si on arrivait à trouver une sorte de compromis entre les deux, on serait en mesure de développer des processus de combustion. On peut penser notamment aux moteurs de bateau, aux moteurs d'avion, aux moteurs de camion. Développer des moteurs qui soient moins polluants.
Donc ce serait une nouvelle génération de moteurs à ce moment-là.
Tout à fait.
Donc ça peut laisser inaugurer de belles inventions technologiques, de nouveaux brevets aussi.
C'est ce qu'on espère. Alors nous, dans mon laboratoire, on ne travaille vraiment pas sur la partie application. Mmh. On travaille vraiment sur la partie chimie fondamentale. En revanche, si certains laboratoires qui travaillent plutôt dans l'application de cette chimie à des moteurs veulent s'emparer de nos résultats et essayer de développer, comme ça se fait déjà pour quelques modèles de voitures, des moteurs qui soient designés de façon à émettre moins de polluants, notamment des suies et oxyde d'azote, pour permettre du coup de créer des véhicules qui soient moins polluants.
Donc c'est l'intérêt de la recherche publique, des universités, des labos de l'université, CNRS et autres, c'est de permettre de trouver des nouvelles idées pour que la société s'en empare. Je parle de la société technologique, économique aussi.
Tout à fait, c'est un des buts de la recherche, c'est créer et accumuler du savoir pour ensuite le transmettre aux citoyens, au grand public, notamment lors de la fête de la science pendant ces 2 semaines.
Voilà, donc dans cette fête de la science, on a parlé tout à l'heure d'un petit ouvrage qui est sorti et qui est présenté, Thomas Panager, qui s'appelle Réveil climatique. Alors c'est vrai que là, on est sur ce thème-là cette année. Et là, vous avez, dans le cadre de Science en Bulle, permis la réalisation d'un ouvrage, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, Science en Bulle, donc, c'est une petite bande dessinée qui existe depuis maintenant, je crois, 4 ans. Donc, qui est produite par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et par Science pour tous. Et donc, l'idée, c'est de venir proposer à des doctorants et doctorantes dans différents laboratoires en France, de proposer d'illustrer au format bande dessinée leur sujet de recherche. Donc, on travaille avec une illustratrice qui s'occupe des dessins. Le but étant de rendre le plus facilement accessible nos sujets de recherche, hein, parce que c'est vrai qu'on travaille des fois dans des sujets qui sont très précis, très pointus, et on a du mal à expliquer ce qu'on fait. Et là, le fait d'avoir ce format bande dessinée permet ouvre une nouvelle facette de la vulgarisation scientifique de nos sujets de thèse.
Alors, la bande dessinée, bon, on a une émission justement à 18h tous les mercredis sur la bande dessinée, hein, qui s'appelle L'heure de Bullet. Mmh. Elle peut s'adresser soit à des adultes, soit à des enfants, soit à tout public, on va dire. Comment vous avez fixé un petit peu le public par rapport à votre production ?
Alors, très honnêtement, je pense que cette bande dessinée, elle est tout public. Hein. Elle n'est pas destinée aux enfants en bas âge. Hein. On va dire que les dessins et les textes sont plus à destination d'adolescents qui ont plus 10, 11, 12 ans et plus. Hein. Et après, je pense que ça intéresse des personnes de tout âge, hein, et pas uniquement les plus jeunes. Hein. Je pense que des personnes aussi un peu plus grandes peuvent trouver intérêt à lire ce petit recueil.
Mmh. Donc, il y a plusieurs séquences, plusieurs sous-thèmes, hein, dans ce recueil. Donc, on sent bien l'approche pédagogique en même temps. Vous l'avez travaillé avec des pédagogues ?
Alors, on a été encadré. Alors, donc, je vais juste. Le thème de cette année, c'est réveil climatique. Donc, c'est le changement climatique. Et comment est-ce que des recherches effectuées un peu partout en France permettent soit de lutter ou de mieux comprendre en fait ce qui se passe au niveau de l'atmosphère, etc. Tout ce qui est induit par changement climatique. Et donc, chaque doctorant ou doctorante qui a été sélectionné a pu travailler avec, en général, un encadrant ou une encadrante du bureau de valorisation de la recherche de l'université pour essayer de produire les textes qui soient les plus simples, compréhensifs et à la fois précis, pour pouvoir transmettre ces textes-là à l'illustratrice, qui elle n'est pas scientifique, pour qu'elle puisse facilement comprendre, hein, et mettre sous format dessin, du coup, nos recherches.
Mmh. Alors, je vois des thèmes qui sont, on va dire, classiques. D'autres sont peut-être novateurs dans le sens où l'avenir, on ne sait pas, hein, leur appartient peut-être, je pense à l'intelligence artificielle. Donc ce sont des sujets sensibles aussi. Comment vous arrivez, comment vous appréhendez l'idée d'un public d'enfants sans forcément l'influencer trop, ou plus que nécessaire, on va dire, pour qu'il ait une idée du problème, mais pas qu'il soit dirigé vers, peu importe, hein, des intentions politiques, on va dire.
Alors là, vraiment, le but de cette BD, c'est vraiment de présenter nos recherches, hein, dans le cadre, hein, du changement climatique. Le but n'étant pas de se positionner en disant que ce qu'on fait est bien, enfin bien ou pas bien, on n'est pas dans cette démarche-là. Le but, c'est vraiment de présenter le doctorant ou la doctorante dans son laboratoire, en train de travailler, montrer les activités qu'elle peut faire. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté quand on vulgarise, hein, c'est de se poser la question du message qu'on va porter, être sûr qu'il soit justement impartial, hein, et pas connoté par, comme vous disiez, peut-être des idéaux politiques ou ce genre d'aspect. Donc c'est vrai que c'est une difficulté de devoir rester, neutre. Hein. Mm-hmm. L'autre difficulté, c'est également, comme donc, cette bande dessinée, chaque doctorant et doctorante dispose de 4 pages, hein, c'est toujours difficile de résumer un sujet qui est complexe en si peu d'espace. Hein. Donc il faut forcément simplifier autant que possible, hein, sans perdre d'informations, et en évitant au maximum de faire des simplifications qui pourraient être mal comprise, erronée ou un peu trop simpliste et du coup brouiller un peu le message qui veut être passé.
Mmh. Alors, c'est un peu aussi pour nous en radio, hein, comment on essaye, on tente de vulgariser de la science, ce qui réduit beaucoup le niveau de ce qui est présenté, même si les doctorants font ce qu'ils peuvent pour aller au mieux possible de la compréhension, mais aussi du détail et du contenu de leurs travaux. J'ai pu justement, c'est là que je conseille aux gens d'y aller, dans le cadre de la fête de la science, m'arrêter à plusieurs stands, donc à la Halle au Sucre, hein, et j'ai pu, moi, poser des questions, et aussi entendre des scientifiques qui posaient des questions à d'autres scientifiques. On sent la différence de niveau.
C'est-à-dire
hein... ben, c'est-à-dire qu'ils posaient des questions beaucoup plus...
Ah.
Plus pertinente ou impertinente parfois, hein, mais qui allait beaucoup plus loin parce qu'ils voyaient tout de suite dans ce qui était présenté ça que moi je ne voyais pas. Donc c'est pas simple de faire l'interface non plus.
C'est sûr qu'il y a deux niveaux de lecture, hein, en fonction des connaissances qu'on a dans un domaine. Hein. Après, je pense que à ce genre d'événement, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions qui soient trop bêtes ou trop naïves. Hein. Le but, c'est d'essayer de comprendre, hein, à son niveau, ce que viennent présenter les chercheurs et chercheuses. Hein. Alors effectivement, si jamais j'ai déjà des connaissances sur un sujet et que je me rends à un stand, hein, où une personne présente quelque chose que je connais déjà, je vais forcément essayer de parfaire mes connaissances à moi en posant des questions très précises qui vont du coup compléter ma connaissance du sujet. Et donc effectivement, à ce niveau-là, on a deux degrés de type de questions qui peuvent être posées.
Mmh. Après, il y a aussi l'intérêt de découvrir d'autres domaines qu'on ne connaît pas pour enrichir sa culture personnelle.
Et c'est ça qui est, je trouve... très agréable dans cette bande dessinée, mais aussi partout à la fête de la science, c'est qu'on a l'occasion, dans tous les parcours scientifiques, de rencontrer des chercheuses et chercheuses de différents laboratoires qui bossent dans beaucoup de domaines différents, et de voir qu'en fait, là, cette année, dans le cadre du changement climatique, que ce n'est pas un sujet qui est peut-être réservé à quelques laboratoires en France, mais qu'en fait, tout le monde peut s'en emparer et agir à son niveau, à son échelle, pour essayer de soit de mieux comprendre, soit de lutter contre le réchauffement climatique, etc.
Donc on a ici, pendant cette semaine consacrée à la science, en fait, hein, toute une possibilité de rencontrer des scientifiques, de comprendre un petit peu ce qui se trame, c'est peut-être pas le mot qui a une connotation peut-être un peu négative, ce qui se prépare en tout cas avec des côtés positifs ou négatifs, on ne sait jamais sur quoi ça débouche. Au départ, en fait, c'est les usages qui font que le bien ou le mal se révèle.
Oui, et la science n'est ni bonne ni mal, la science c'est science, hein. C'est ce qu'on en fait après coup peut-être qui peut être connoté bien ou mal.
Voilà, mais ce qui est sûr, la science à la conscience.
Exactement. Non, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les chercheurs et chercheuses qui se déplacent à ces événements pour présenter leurs recherches, hein, le font dans le but d'ouvrir ça au maximum de personnes. Hein. Et donc, je sais que c'est toujours un plaisir. Moi, je le fais et beaucoup d'autres le font. C'est toujours un plaisir de partager ce qu'on fait et essayer d'expliquer un peu les tenants et aboutissants de nos recherches qui parfois paraissent un peu abstraites ou compliquées sur le papier.
Alors, je parlais un petit peu tout à l'heure des difficultés que rencontrent certains doctorants à vivre normalement de leur travail. Je ne sais pas si d'une université à l'autre ou d'un labo à l'autre, les choses sont plus ou moins mieux dans un cadre ou dans un autre, mais globalement, est-ce qu'on a une idée de l'apport global des doctorants à la science, c'est-à-dire leur proportion dans l'univers de la recherche, c'est-à-dire montrer en quoi ils amènent du contenu, on va dire, hein, et puis voir comment ils sont considérés d'un point de vue administratif pour qu'ils puissent vivre de leur travail et sur quoi cette partie de leur vie peut déboucher sur peut-être un confort plus grand.
Tout à fait. Alors déjà, moi, je vais commencer à dire que je suis un peu privilégié, c'est que j'ai la chance de faire ma thèse sous contrat. Donc je suis financé par l'école doctorale SMRE de Lille, qui finance pendant 3 ans mes recherches. Donc j'ai un salaire qui me permet de vivre à côté de mes recherches, etc. Donc je suis salarié du laboratoire. Je sais que c'est un cas qui est en science peut-être répandu, mais dans d'autres domaines, qu'il est beaucoup moins. Je sais qu'en sciences humaines et sociales, la part de doctorants qui sont financés pendant leur travail de recherche est beaucoup moins élevée. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens, de personnes qui sont en thèse, hein, et qui doivent, en plus de leur travail de recherche, travailler à côté, bah, pour vivre. Hein. Donc c'est une difficulté, forcément, pour poursuivre des recherches, parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de concentration et beaucoup d'investissement dans ces conditions-là. Donc moi, je suis vraiment... J'ai la chance d'avoir un laboratoire qui m'accueille, un salaire, etc. Donc je veux dire que je fais ma thèse dans les conditions, on va dire, entre guillemets, idéales. Mmh. Maintenant, pour la question de la place des doctorants en termes de production de science, alors j'ai pas de nombre à donner. L'idée que j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut voir la thèse comme l'apprentissage de la recherche par la recherche. On passe 5 ans entre la licence, le master, à être assis sur les bancs de l'école hein, et à écouter des cours, on fait des stages, etc. Mais il y a peu de pratique, on va dire, de l'activité, enfin des domaines sur lesquels on travaille pendant qu'on est pendant les études. L'avantage de la thèse, c'est d'être vraiment sur le terrain, faire des recherches pour mieux comprendre son sujet. C'est une façon de s'émanciper, de comprendre peut-être un peu différemment comment le monde fonctionne, de mieux comprendre ce qu'est la recherche. J'ai fait tous mes stages de recherche, enfin tous mes stages de quand j'étais en licence ou en master dans des laboratoires de recherche. Et pourtant, j'ai eu la vision de ce qu'était la recherche uniquement en arrivant en thèse, hein, puisque c'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Donc moi, je pense que la thèse, c'est une chance. Enfin, moi, je suis heureux de la faire hein, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Hein, C'est tous les jours, c'est tous les jours un plaisir de venir travailler, en tout cas pour moi. Et maintenant, la dernière question, c'était sur le futur. Alors, ben, le futur, c'est pareil, ça va vraiment dépendre de de chaque individu, de ce qu'il veut faire après la thèse. Certains continuent dans l'académique, d'autres continuent en entreprise, certains changent de voie. Je pense pas qu'il y ait de parcours entre guillemets type. À la pré-thèse. Alors peut-être que si on regarde domaine par domaine plus précisément, on pourrait trouver des statistiques un peu détaillées. Mais je pense que la pré-thèse est très ouverte. Hein. Et je pense, autant de gens qui ont continué après leur thèse dans le domaine dans lequel ils ont fait leur thèse hein, que de gens qui ont complètement fait autre chose après parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas forcément ce qu'ils recherchaient pour leur avenir professionnel.
Alors, dans les pays anglo-saxons, les études sont beaucoup plus chères en France. Donc les étudiants en France ont cet avantage d'une certaine manière à faire des études en France et une fois qu'ils font leur thèse, ils ont un peu de moyens. Est-ce que dans les pays anglo-saxons, alors où c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils doivent payer beaucoup leurs études au départ, ils sont mieux considérés ou payés quand ils font un travail de recherche au niveau initial ?
Alors j'ai aucune idée du salaire que peut recevoir un ou une doctorante dans un pays anglo-saxon. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans tous les cas, je pense que le statut équivalent salarié, on va dire, est assuré aussi pour des gens qui sont en thèse à l'étranger. Effectivement, je pense que le salaire va dépendre des pays, etc. Je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, je sais que les doctorants ou doctorantes dans d'autres pays sont aussi payés pour leur travail de recherche de façon générale. Mm-hmm. Souvent, quand on passe dans un laboratoire, de toute façon, on est souvent salarié ou payé pour ses recherches. Mmh.
Donc là, on vit un moment particulier où la France il y a beaucoup d'entreprises françaises plutôt qui sont vendues à des entreprises notamment américaines en ce moment. Hein. Est-ce que nos cerveaux n'ont pas tendance aussi à disparaître ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on le sait, hein, c'est pas une nouvelle, il y a une situation un peu critique au sein de l'enseignement supérieur de la recherche hein, parce que peut-être que les moyens qui sont alloués à la recherche en France ne sont pas au niveau de ce qui devrait être pour un pays tel que le nôtre. Et donc, des gens font le choix, et c'est leur choix, de partir hein, à l'étranger pour faire de la recherche, parce que c'est effectivement certains pays ont peut-être sont peut-être plus attractifs à ce niveau-là.
Donc c'est un mauvais retour sur investissement pour les universités françaises.
Tout le monde ne quitte pas la France pour partir à l'étranger. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent en France parce que quand on a grandi, quand on a été élevé et qu'on a pu profiter d'un système français comme ça qui permet de faire ses études hein, à un prix, on va dire, très correct. Hein. Je comprends que des gens font le choix de rester en France et continuer dans cette voie-là. Maintenant, je comprends aussi qu'effectivement, comme on sait que le statut de chercheur est peut-être moins considéré en France que dans d'autres pays, Je comprends que certaines personnes cherchent aussi à partir quand les opportunités sont meilleures ailleurs.
Donc, au-delà de ce problème, aller à l'étranger, c'est toujours inspirant de voir comment se passe la recherche ailleurs aussi.
C'est sûr. Après, c'est aussi l'avantage de la recherche, c'est que ce n'est pas cantonné à un pays. Enfin, les thèmes de recherche sont faits dans beaucoup de pays différents. Je ne sais pas, peut-être pas 100%, mais en tout cas, beaucoup de chercheurs et chercheuses font des collaborations avec des chercheurs et chercheuses d'autres pays, de laboratoires similaires. Et là, effectivement, la recherche, c'est effectivement aussi une façon de s'ouvrir sur le monde, de voir comment la recherche se fait ailleurs. C'est une façon, en fait, oui, effectivement, de s'ouvrir, peut-être de mieux comprendre le monde tel qu'il fonctionne, etc.
Voilà. C'est vrai que comprendre le monde pour en résoudre les difficultés, c'est un minimum pour un chercheur.
C'est très important de s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à l'inconnu, entre guillemets, pour parfaire sa compréhension du monde qui nous entoure.
Bien, merci Thomas Panager. Est-ce que vous voulez conclure avec une idée ou une proposition ou une demande? C'est peut-être le moment.
Hein. Ah, bah alors, moi j'invite tout le monde, petit comme grand, pendant la fête de la science, de se rendre sur les événements qui sont organisés un peu partout en France, pas forcément que dans les Hauts-de-France, à la rencontre des chercheurs et chercheuses. Hein. On vient de passer des années assez critiques où la science a été beaucoup remise en question. Et je pense que c'est important, en tant que citoyen ou citoyenne, de se rendre compte de ce qui se fait vraiment dans les laboratoires de recherche, d'aller à la rencontre des chercheurs et chercheuses, voir leur travail, parce qu'eux sont ravis de le partager. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre lors de cet événement-là.
Bien, merci, bonne continuation.
Merci.